Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, de vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous accueillons l'auteur et médecin spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs, Jean Becchio. Suite à la parution de son livre « Du nouveau dans l'hypnose » aux éditions Odile Jacob et qui fait partie, selon moi, des grands ouvrages que j'ai lus sur la santé mentale. Alors, bonjour Jean Becchio.
Bonjour.
Vous êtes médecin spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs et aussi auteur du livre « Du nouveau dans l'hypnose, les techniques d'activation de conscience » paru récemment chez Odile Jacob. Alors, l'hypnose est un outil thérapeutique ancestral. Les druides, les chamans, les conteurs et les hommes médecine utilisaient des techniques pour changer l'état de conscience de leurs visiteurs, tantôt pour les aider à évoluer, tantôt pour les guérir. Longtemps envoyés au rang du spectacle et du divertissement, discrètement, l'hypnose est redevenue un outil thérapeutique validé par la science. Alors, hypnose, on découvre dans votre livre, vient du dieu grec hypnos, qui pendant le sommeil fait son travail de soignant, qui répare, cicatrise, console, panse les plaies du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors, votre livre est un récit d'aventure des pionniers découvreurs de la nouvelle hypnose des années 80, dont vous êtes issu. Vous avez rencontré cette discipline en 1970, que vous contribuez aujourd'hui activement à faire évoluer depuis. Vous êtes par ailleurs le fondateur d'un des premiers enseignements universitaires d'hypnose. Vous enseignez les techniques d'activation de conscience à l'université Paris-Orsay et vous présidez le Collège international des techniques d'activation de conscience, le CITAC. Alors, votre livre décrit l'histoire passionnante de l'hypnose ainsi que son utilisation pour soulager les douleurs, les addictions, les troubles du sommeil, les phobies, les pertes de confiance ou le burn-out. Chemin faisant, vous exposez aussi les évolutions de votre pratique et des outils qui permettent de comprendre comment s'est élaborée la discipline qui remplace désormais l'hypnose et autonomise le patient, à savoir le TAC, les techniques d'activation et de l'attention et de la conscience.
Tout à fait.
Alors, moi, la première question, c'est hypnose versus TAC, quelles évolutions, quelles différences ?
Oui, alors, formidable résumé, je sens que vous avez lu le livre et je vous en remercie. Juste une petite modification, je suis médecin généraliste de base et ça je le revendique, et bien sûr je me suis ensuite tourné vers la psychiatrie et les soins palliatifs. Hypnose versus technique d'activation de conscience, c'est tout simplement, je dirais, une évolution. Vous avez fait une excellente analyse, vous partez du chamanisme, et nous tous les soignants, tous les médecins et tous les soignants, nous avons des racines chamaniques. Nous utilisons certains moyens qu'utilisaient déjà les chamans. Après, la vision de la vie, la spiritualité, les croyances ont évolué. La science est arrivée, la science moderne du 16e, 17e, 19e siècle surtout. L'hypnose est arrivée avec le dieu hypnos, comme vous avez dit. Et puis, les neurosciences sont arrivées et surtout la médecine évalué par les preuves, l'évidence basée de médecine, comme on dit lorsqu'on veut parler anglais. Et là, ça nous a obligés à sortir de dogmes qui nous accompagnaient depuis le 19e siècle, le 20e siècle, pour entrer dans des paradigmes qui ne sont pas des dogmes, qui sont des éléments de science actuels sur lesquels on fait reposer notre technique, qui demain se révéleront peut-être faux. Et ces nouveaux paradigmes nous ont finalement, naturellement, orienté vers une modification de ce qu'on faisait en hypnose pour traiter maintenant en activant la conscience. Voilà à peu près ce que je peux dire. Donc ce n'est pas rejeter l'hypnose, c'est la placer un peu dans l'évolution, sur l'étagère du musée de la médecine. Elle était défendable à une certaine époque avec certains dogmes. Elle n'est plus défendable maintenant. Maintenant, ce qui est défendable, ce sont ces nouvelles techniques.
Alors, vous dites, les grands changements de nos vies viennent de l'intérieur et vont vers l'extérieur. Un bon thérapeute emploie toujours une technique qui stimule la force interne. Quelle technique utilisez-vous pour aujourd'hui, avec le TAC, pour stimuler cette force ?
Oui, je dis toujours que quand on a un œuf, On peut couper un œuf ou deux œufs et puis les mélanger, ça fera une bonne omelette qui servira une fois, qui apportera l'énergie de l'omelette. Ou alors, on peut mettre l'œuf sous le ventre chaud ou l'aile de la poule. Et là, il y a une force à l'intérieur de l'œuf. Ce ne sera plus nous qui cassons la coquille. C'est cette force qui va se développer et qui permettra le développement de la vie, d'une nouvelle poule qui pourra donner de nouveaux œufs, etc. Donc là, on va dans le sens d'un entretien de la vie. Eh bien, avec le patient, c'est la même chose. On faisait peut-être avec l'hypnose traditionnelle un coup de marteau. Tu as envie de fumer? Boum! Je te fais une séance, tu seras dégoûté du tabac. Tu as mal à la tête? Je te fais une séance, tu n'auras plus mal à la tête à la fin. Là, on donnait un coup de marteau, on faisait une suggestion très directe qui ne marchait que dans un espace voisin du placebo. Maintenant, lorsque une personne, par exemple, veut s'arrêter de fumer, on lui fait voir que c'est possible, bien sûr, avec nos techniques, et que ça nécessite de mobiliser cette force interne. Et cette mobilisation ne se fera pas d'un effet d'une seule séance, comme c'est dit dans beaucoup de bouquins ou beaucoup de revues journalistiques et grand public. Il faudra, pour développer cette force, voir le thérapeute plusieurs fois et surtout, soi-même, régulièrement, apprendre et pratiquer des exercices d'auto-activation. Et comme cela, on arrive à soigner des tabagiques, des alcooliques ou des personnes qui ont toutes sortes d'addictions.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour stimuler les forces, vous invitez à travers des exercices votre patient à comment dire, se rapprocher de compétences, de ressources, d'expertise. Vous appelez donc plutôt que de donner plusieurs exemples ou plutôt que de demander à un patient de penser à quelque chose qui lui fasse du bien alors qu'il est dans la douleur, vous lui demandez de penser par exemple à quelque chose qu'il a construit. Je dis sous votre contrôle.
Jusqu'à présent, vous n'avez dit aucune bêtise, hein, vous avez retenu le mot bêtise, vous n'avez dit aucune bêtise. Ce que vous dites est vraiment très adapté. Là, vous faites une notion, quand un patient vient me voir, la première chose que je fais, c'est établir la confiance avec lui, et puis tout de suite écouter sa plainte, comme disait François Roustan, qui est un homme remarquable. Et après avoir écouté la plainte, je lui fais prendre conscience que j'ai entendu la plainte. Et une fois que j'ai entendu la plainte, qu'il m'a décrit sa plainte, à ce moment-là, je lui demande quelles sont ses ressources, qu'est-ce qu'il aime dans la vie. Moi, si on me demande, je redemande toujours trois ressources. Si on me demande trois ressources, moi, c'est le chocolat noir, c'est pouvoir randonner de temps en temps dans mes Pyrénées ariégeoises, et le troisième, c'est d'avoir un bouquin style Shakespeare ou Proust que j'aime bien lire le soir sur ma table de nuit. Et les gens me donnent leurs trois ressources. Et puis, je leur demande une expertise. Une expertise, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire en dehors de leur travail. Et presque tous les gens, même tous les gens, j'arrive à leur faire émerger cette expertise. Je me rappelle d'un patient, j'ai travaillé pendant longtemps, mon cabinet était dans une banlieue populaire du 9-4, et j'avais beaucoup de travailleurs venant de tous les pays. Il y avait un foyer de travailleurs immigrés à côté de mon cabinet, et un jour vient me voir un Yougoslave, à l'époque la Yougoslavie existait encore, pour lequel je vois qu'une séance que je dirais de TAC maintenant serait nécessaire, et cet homme était alcoolique, enfin toutes les tares possibles, et je lui demande quelle est votre expertise. Il me dit, docteur, regardez, je suis loc, aucune expertise. Et je savais que cet homme buvait 4 litres de vin par jour. C'était l'après-midi, je lui dis, vous buvez combien de litres de vin par jour? Il me dit, 4 litres. Je lui dis, combien avez-vous bu? Il me dit, depuis ce matin, 2. Je lui dis, vous voyez, là vous êtes un expert, je boirai moi un demi-verre de vin. J'aurais envie de dormir maintenant à 14 heures. Alors je lui dis, c'est pas bien, bien sûr, cette expertise, mais vous avez réussi. Et à partir de ça, on a utilisé cette expertise pour la mettre au service de, justement, comme j'ai dit, le petit poussin qui se développe dans la coquille. C'était pas moi qui lui ai cassé la coquille. Je lui ai appris à utiliser des ressources pour, justement, arriver petit à petit à vaincre son alcoolisme. Ça nous a pris une année, mais je me rappelle, la première séance a consisté à faire cela.
Alors, pour évoquer la problématique du choix binaire, du non-choix ou du non-choix, vous citez Charles Dickens. Je suis très sensible à cette citation, mais d'une manière générale à votre livre, hein, que j'ai beaucoup aimé, qui dans le roman David Copperfield dit « Serais-je le héros de ma vie ou ce rôle sera-t-il joué par quelqu'un d'autre que moi ?» Alors, comment un choix partiel ou le non-choix devant une bifurcation conduit à l'échec ou à la névrose?
Ça, c'est une phrase qui m'a marqué moi aussi et qui a marqué beaucoup de monde. Et ce roman a influencé beaucoup de personnes, beaucoup d'anglo-saxons. On dit que Bill Gates, quand il était gamin, il a lu ça. Il s'est dit, je veux devenir le héros de ma propre vie. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Et sans arrêt, finalement, on a le choix. Vous avez eu le choix de venir me voir ou d'aller voir une autre personne. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait ce choix, cette bifurcation avec tous les livres que vous recevez. Et si vos auditeurs réfléchissent quelques secondes, aujourd'hui, dans leur vie, il va se présenter une bifurcation. Est-ce que je vais faire ceci ou cela? Qu'est-ce que je vais prioriser? Habituellement, ça se passe bien, on fait les bons choix qui nous permettent d'avancer. Ce sont pour les patients qui sont en manque d'énergie, en manque, il y a un mot que je lance pour la première fois, de force agentive ou d'agentivité, comme un petit agent qu'on a à l'intérieur de nous, et qui fait que cet agent, devant la bifurcation, il les fait hésiter. Il les fait tellement hésiter que la peur arrive, et la peur est mauvaise conseillère, et la peur, elle nous oriente presque systématiquement sur le mauvais chemin, à cette bifurcation, à ce carrefour. Donc le patient, on va lui apprendre à gérer ses peurs pour qu'au moment de la bifurcation, ce soit avec confiance qu'il choisisse un des deux chemins. Il choisira peut-être le bon, il choisira peut-être le mauvais, et s'il choisit le mauvais, grâce à cette confiance, il s'en rendra compte plus rapidement, et là il y aura une nouvelle bifurcation, il bifurquera vers le bon chemin. Voilà pour répondre à cette question assez pointue.
Alors, les mots qui soignent, changez les mots et vous changerez les sensations. Alors, vous dites dans votre livre, les mots soignent par eux-mêmes lorsqu'ils sont bien choisis et en correspondance avec le vécu et le ressenti du patient. Alors, comment le langage impacte le corps et l'esprit?
Je donne un exemple que j'ai donné encore à mes élèves hier soir, puisque je suis en semaine d'enseignement, là. Par exemple, un patient va mieux et avant de connaître cette force des mots qu'on appelle la sémantique, si on veut faire scientifique et sérieux, quand un patient allait mieux, je lui disais « Vous allez mieux, je suis content ». Et le patient recevait cela avec satisfaction. Et si je mettais sa tête dans une IRM, là, je n'aurais pas vu grand-chose. Maintenant, je dis au patient « Vous allez mieux, je suis content », et je rajoute « Vous êtes sur le bon chemin ». Et là, si on a la tête dans une IRM, lorsque le bon chemin arrive, cette image symbolique, universelle, d'un bon chemin, comme il existe en spiritualité, le bon pasteur ou la bonne voie, ce n'est pas pour rien que les textes spirituels emploient ces mots-là, on voit dans le cerveau, zoom, aussitôt, je dirais, une onde de joie. J'exagère, bien sûr, elle n'existe pas, l'onde de joie. Et donc, les mots changent le sens de la phrase et la rendent plus ou moins percutante. À nous de connaître les mots qui animent dans le cerveau, quelque chose qui permet au patient, justement, de continuer à avancer sur le beau chemin de la vie.
Alors, vous dites que ces mots, dans votre livre, vous ont été inspirés par Aristote.
Oui.
Dans la poétique et la rhétorique.
Ah, tout à fait.
Alors, de quel...
Mais Aristote, il a écrit d'abord un bouquin qui s'appelle « La rhétorique ». C'était pour les rhéteurs, c'est-à-dire pour les avocats, pour leur permettre de construire des discours qui influencent le juge et permettent de gagner le procès. Et il s'est rendu compte que certains avocats employaient ça marchait, d'autres l'employaient moins bien et employaient autre chose et gagnaient le procès. Alors il a observé ces avocats et il a vu qu'ils employaient les suggestions décrites par Aristote et que ces suggestions, il les ornait de métaphores, de poésie, de musique, d'évocations d'éléments culturels ou d'éléments naturels. Tous ces éléments-là qui sont autour de nous. Là, on est au bord d'une rue et on voit des arbres dehors. Ces arbres-là, c'est la nature qui est à notre fenêtre ou à notre porte. Et lorsqu'on les inclut dans notre discours, ou lorsque je suis avec un patient et que j'inclus ces éléments de poésie, de nature, de musique, de corps qui danse dans mon discours, je n'aurai plus un discours de médecin avec cravate, sérieux, pragmatique, parlant de parasympathique ou de sympathique. Voilà, on peut parler de choses simples qui touchent l'oreille du patient, son cœur et hop, son cerveau. Voilà ce que Aristote a découvert et nous le partageons avec nos élèves et avec nos patients aussi.
Alors quand vous dites des mots qui touchent son cœur, son cerveau, son esprit, c'est la conscience bienveillante que vous nommez dans votre livre? C'est ça?
Un petit peu, cette notion de, oui, de conscience bienveillante, pendant, vous avez fait un excellent résumé de l'histoire qui amène au TAC, aux techniques d'activation de conscience. Et à un moment, il y a quelqu'un que je cite, c'est Milton
Tout à
Erickson,
fait.
qui est sorti de l'hypnose traditionnelle marteau, où je tape sur la personne pour qu'elle ne fume plus, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui a introduit avec intelligence, justement, cet apport métaphorique. Et à l'époque, on pensait que l'inconscient agissait. Maintenant, on a une nouvelle vision de l'inconscient grâce aux neurosciences. Et Erickson parlait d'inconscient bienveillant. Maintenant, on parle plutôt de cette force de vie qui est à l'intérieur de nous. On rejoint un peu les philosophies taoïstes avec le chi, l'énergie qui circule en nous. Et donc, c'est cette force de vie, disons, qui est toujours bienveillante, qui va toujours dans le sens de l'amélioration, que l'on va stimuler chez certains patients qui n'ont pas assez d'énergie pour stimuler cette énergie vitale. Voilà, la bienveillance, elle est à l'intérieur de nous, mais il faut qu'on l'encourage, disons.
Alors, je découvre, grâce à votre livre, qu'on a un sixième sens, que vous nommez la proprioception, à savoir ce qui est relatif à la mobilité du corps. C'est vrai, ça paraît tellement évident quand, quand on le lit, mais vous dites à juste titre que c'est tellement évident qu'on ne sait pas qu'il s'agit d'un processus qui est actif en permanence, comme l'ouïe, l'odorat, le
Alors,
toucher.
ça, c'est une grande révolution. On va retomber sur Aristote, et je viens de louer Aristote et de le monter au pinacle, parce que pour moi, c'est un philosophe extraordinaire. Et il est un peu responsable. Il a décrit cinq sens que tout le monde connaît, la vision, l'audition, le goût, le tact et l'odorat, qui nous ont accompagnés pendant des siècles. Et il a négligé la proprioception, qui est la sensation que j'ai de l'espace qu'occupe mon corps dans l'espace, justement, à l'intérieur de moi et autour de moi. Et cette proprioception, elle a été réhabilitée en 2014, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant, qu'elle a été réhabilitée par les neuroscientifiques. Ils l'ont placée au rang de sixième sens, et maintenant, 6 ans après, on peut dire que c'est le premier sens. Pourquoi? Parce que on peut perdre l'oreille comme Beethoven, devenir sourd, on peut perdre la vue, on peut, voilà, on peut perdre les cinq sens, on perd le goût avec la Covid en ce moment, on peut perdre les cinq sens et on ne peut jamais perdre la proprioception. Pourquoi? Parce que la proprioception, c'est, je dirais, la force qui nous permet de lutter contre la force d'attraction terrestre, la force de gravitation. Et tant qu'il y a de la gravitation, cette force s'anime. Et c'est la force de l'équilibre, c'est la force de l'action, c'est la force du mouvement. Et on dit maintenant que cette proprioception même, c'est la mère des cinq autres sens. Par exemple, j'entends un son dans la rue, aussitôt je tends l'oreille, c'est-à-dire j'ai du mouvement qui me permet de mieux percevoir le son. Je vous regarde, je pose, je porte mon regard sur vous. Je sens un parfum, mon nez aussitôt se met en mouvement vers le parfum. C'est-à-dire les cinq sens d'Aristote, ils passent obligatoirement au départ par la proprioception. Et nous, pourquoi vous me posez la question? C'est que dans nos séances de psychothérapie, le patient n'est plus allongé, comme à l'époque de la psychanalyse, il n'est plus assis dans un fauteuil confortable, comme à l'époque de l'hypnose ericksonienne, il est dans une position tonique, comme s'il était sur un tabouret. D'ailleurs, on a souvent des tabourets. Quand je reçois des patients ici, je les fais mettre en position tabouret, les pieds bien posés sur le sol. Et en position tabouret, on a le bassin qui, au lieu d'être enfoncé dans le fauteuil, comme on dit, tourné vers l'arrière, il est tourné vers l'avant, en antéroversion, pour parler en langage médical. Et lorsqu'il est tourné vers l'arrière, mon bassin, les auditeurs peuvent expérimenter s'ils sont assis. Installez-vous confortablement dans votre siège. Vous allez voir que votre ventre va être comprimé, votre diaphragme va être comprimé, vos poumons vont être comprimés, votre cœur va être comprimé rapidement au bout de 2 ou 3 minutes. Et c'est un faux confort. Redressez-vous, auditeurs, mettez votre bassin bien ouvert et là, tout s'ouvre, l'othorax s'ouvre, le diaphragme s'ouvre, je respire bien, mon cœur est libéré, je suis prêt à laisser circuler l'énergie et à vivre, tout simplement, grâce à la proprioception, grâce à ce côté tonique et en mobilisation.
Vous démontrez d'ailleurs à travers l'exemple de la psychologue américaine Amy Cuddy comment notre corps modifie notre mental. Vous pourriez nous en parler rapidement, enfin, partager
Oui,
Amie
Cuddy a fait une expérience révolutionnaire qui, dans un premier temps, a été critiquée par ses collègues et qui, dans un deuxième temps, a été validée par l'ensemble de la communauté scientifique. Elle est très simple, cette expérience. Elle fait venir des étudiants, deux groupes d'étudiants en psychologie, par exemple, des jeunes de 18 à 23 ans. Le premier groupe, les deux groupes, elles mesurent dans leur salive certains paramètres biologiques, disons les hormones du stress ou les hormones du bonheur, pour faire simple. Et puis, le premier groupe, elle leur dit pendant 3 minutes de prendre une attitude d'étudiant déprimé avant un examen et qui pense qu'il va rater son examen. Il l'imagine pendant 3 minutes. Et à la fin de l'expérience, elle va redoser les paramètres, l'hormone du stress et l'hormone du bonheur. Et le deuxième groupe, elle leur demande de prendre une position de fierté, ressentir la fierté de ses racines, la fierté de sa culture, la fierté de ce qu'on a fait dans la vie, même la fierté de ses échecs qu'on a dépassés pour aller vers... pendant 3 minutes. Et elle mesure aussi les différents paramètres dont je vous ai marqué. Et les résultats sont fabuleux. Dans le groupe de déprimés, les hormones de la destruction comme le cortisol augmentent et les hormones de la joie et du bonheur diminuent. Et dans l'autre groupe, les hormones du bonheur augmentent et les hormones du stress diminuent de façon remarquable. En 3 minutes, simplement, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a rien, il y a juste de la suggestion et de l'imagination, d'imaginer qu'on est fier et heureux d'être fier. C'est une belle, belle expérience que l'on doit à Amie Cuddy.
Alors, la notion d'émotion positive comme la joie ou négative comme la colère est dépassée selon vous. Toute émotion est utile et doit être utilisée. Alors, une émotion n'est pas un état mais un processus dynamique. Les émotions sont souvent rationnelles, versus Descartes qui pensait totalement le contraire.
Exactement, bravo.
Et vous dites que la dépression, ça j'ai adoré, est une fonction, a une fonction. Mm-hmm. Alors laquelle ?
Alors je reviens sur les émotions et après on va faire la dépression parce que vous posez deux questions à la fois. Les émotions, c'est très actuel. Maintenant, les scientifiques se sont accordés, les scientifiques occidentaux, pour dire qu'il y a 4 émotions. La peur, la colère, la joie et la tristesse. Ils ont presque raison. J'aime beaucoup la philosophie, les philosophies extrême orientales et taoïstes. Pour les taoïstes, il y en a 5. Il y a aussi l'état de base, où je n'ai ni peur, ni colère, ni tristesse, ni joie, qui est l'état de réflexion, dans lequel on était un petit peu tout à l'heure. Là, on est un peu joyeux et l'excitation de l'interview. Mais disons, l'état de base, c'est l'état de réflexion. Et toutes sont utiles. La tristesse, elle est utile. S'il n'avait pas éprouvé la tristesse, Baudelaire, on n'aurait jamais eu les fleurs du mal. Il était un triste naturel, il a su utiliser sa tristesse pour construire son œuvre. Et pareil, il y a des grands coléreux, il y a l'équipe de France de rugby qui va jouer tout à l'heure le tournoi des 5 nations. Ce sont les coléreux qui arrivent à maîtriser leur colère, c'est-à-dire les chevaux fous qui ont été un peu domptés par une technique et par une règle de jeu qu'on appelle l'éthique, qui risquent de gagner. Vous voyez, c'est ça. Donc, toutes les émotions sont utiles. Ce qui est mauvais, c'est l'absence d'émotion. Une personne qui n'a pas de colère, qui n'a pas de peur, qui n'a pas de tristesse ou qui n'a pas de joie, là, en psychiatrie, c'est un danger. C'est un peu l'alexithymie, c'est un mot scientifique qu'on a mis là-dessus. Et on arrive à la dépression. La dépression, oui, c'est peut-être quelque chose d'utile à un certain moment. À un certain moment, c'est le corps qui dit « il y en a marre, tu te poses ». Tu es trop, tu vas vers le burn-out ou autre, et tu te poses. Donc, on accepte la dépression et on n'essaie pas de lutter contre la dépression. La dépression, c'est, on reprend la métaphore de l'œuf, si vous voulez, c'est peut-être le tout petit poussin qui a la possibilité de se développer et qui ne va pas se développer. Tous les œufs ne donnent pas des poussins qui donneront des poules ou des coques. Voilà, mais là, disons, il n'y a plus de force et il va aller vers... rester l'œuf pour aller dans l'omelette, quoi, disons. Nous, on a la chance de le voir à ce moment-là, on lui dit, tu ne vas pas aller dans l'omelette, tu as des forces en toi, reste dans cet état de faible énergie, et petit à petit, doucement, on va te permettre de redevenir le poussin capable de faire éclater ton cadre et de mener ta vie. Et ça, c'est un message qu'on donne aux déprimés quand ils viennent. Parce que quand on nous envoyait des déprimés en hypnose, on voulait qu'ils soient guéris en 2 ou 3 séances. Et lorsque les patients n'étaient pas guéris en 2 ou 3 séances, on considérait que c'était un échec. Eh bien non, une dépression, avec médicaments ou sans médicaments, ça nécessite toujours 4 à 6 mois de traitement. Et ça, on l'annonce au patient, il l'accepte, et en 4 à 6 mois, progressivement, on va leur prendre des exercices d'auto-activation qui vont activer son processus. Au départ, il était désactivé, et au fur et à mesure des semaines, j'écarte les mains pour montrer ce qu'on fait, et il va s'activer. Donc la dépression, on l'accepte comme un élément salvateur. Ce qui serait mauvais, c'est qu'elle reste tout le temps. On va la stimuler et l'activer progressivement pour que le patient retrouve son état de base, ou mieux que son état de base enrichi par l'expérience qu'il a vécue de la dépression.
Alors, vous insistez énormément sur, pour vous, l'objectif, enfin, la nécessité d'encourager l'autonomie du patient.
Ah, ça c'est primordial. C'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Quand les patients viennent, d'ailleurs, on leur annonce cela, on accepte de les aider, on accepte de les suivre pendant 4 mois ou 6 mois s'ils sont dépressifs, on accepte de les suivre pendant 1 an si c'est un alcoolique, si c'est une addiction à des drogues lourdes ou autres, et minimum 1 an, on leur dit, parce que c'est une question de physiologie, on ne peut pas les sortir comme ça d'un coup de baguette magique de leur addiction, et on leur dit, bien sûr que je vais travailler avec vous, et je travaillerai à la hauteur de votre travail à vous. Je ne peux pas travailler plus que vous. Si je travaille plus que vous, c'est le marteau qui casse la coquille. Vous, il y aurait votre progression, je suivrai votre progression et je vous aiderai à progresser. Et donc ça, c'est important. Pour les autonomiser le plus rapidement possible. Et lorsque le déprimé, par exemple, au bout de 2 mois, ira beaucoup mieux, je l'autonomiserai. Je ne le verrai plus toutes les semaines, je le verrai tous les 15 jours. Et même après, à la fin, je le verrai tous les mois pendant peut-être 1 mois ou 2 encore, pour m'assurer qu'il est bien autonomisé. Et donc cette autonomie est importante. Pour des étudiants, par exemple, qui sont anxieux vis-à-vis des examens ou des choses comme ça, je les vois 2 ou 3 fois, je leur apprends 2 ou 3 exercices, et très rapidement, ils s'autonomisent, ils pratiquent l'exercice, ils n'ont plus besoin du père Becchio, je ne suis plus un gourou, ils m'oublient, je ne suis plus indispensable. Ils sont devenus autonomes grâce à ces petits exercices qu'on a dans le bouquin d'ailleurs à la fin.
Oui, d'ailleurs, vous parlez de la souffrance psychique, par exemple, des enfants. Vous citez Bruno Falissard, qu'on connaît chez Bloomignou. Et vous reprenez, en fait, les fondamentaux qui sont liés, effectivement, à la stimulation de l'attention, notamment chez les enfants. Comment le tact peut aider les enfants à être plus concentrés, plus...
Oui, hier avec nos élèves, c'était la journée TAC et enfance, donc on montre des vidéos de thérapie, et on a montré 3 vidéos. Une enfant qui est sur son siège et qui n'arrête pas de bouger, qui descend même presque, vous regardez s'il y a sous le siège, qui est vraiment très en mouvement, etc. Et on voit que sur cet enfant très mobile, qui aurait des déficits de l'attention ou autre, on arrive à placer les 10 points que j'ai décrits dans le bouquin, les 10 points du TAC, et cet enfant a réussi à écouter, à bouger en même temps. On l'a vu 3 fois, 4 fois, je crois, et cela a amélioré ses troubles de l'attention. Elle est toujours aussi mobile, aussi active, avec une attention qui s'est développée. On a montré une autre vidéo d'une enfant très sage que l'on met avec les mains devant la poitrine, qui ne bouge presque pas pendant la séance. Et là aussi, on a fait une séance assez comparable, avec des nuances quand même. C'est-à-dire, les enfants, ils ont chacun leur particularité. La grosse particularité, c'est qu'ils sont facilement activables et ils apprennent facilement les exercices d'auto-activation, à la condition que ces exercices soient dans leur univers. On utilise l'univers du jeu, l'univers des jeux qu'ils voient sur leur tablette, sur leur jeu électronique, ou ce qu'ils voient dans les bandes dessinées, les mangas ou autres. Et quand on utilise cet univers qui est leur univers quotidien, eh bien, nos exercices s'adaptent à eux et les enfants en tirent des bénéfices.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier,
Jean-Béthier ? Moi, j'ai commencé mon diplôme de médecin, je l'ai eu, mon titre de médecin, je l'ai eu en 1975, mais quand on est interne et externe, on peut dire que ça fait longtemps que je le fais, voilà.
Donc, vous étiez avant un athlète de haut niveau ?
Oui, j'ai eu le record de France de saut en hauteur junior, et ma voie était toute tracée, j'avais un bac philo à l'époque, je ne connaissais pas du tout la médecine, tu seras prof de gym, mon fils, parce que en équipe de France d'athlétisme, on était privilégiés, on nous mettait dans une école qu'on appelait le CREPS, et on continue notre carrière d'athlète tout en gravissant les échelons pour arriver prof de gym. Et puis, un accident lors d'une compétition a fait que je ne pouvais plus faire prof de gym, donc je me suis orienté tout à fait par hasard vers la médecine, parce que ma sœur y était déjà avec une année d'avance pour moi, il y avait les bouquins à la maison, je me suis dit, allez, on va suivre la grande sœur. Voilà. C'était pas du tout la vocation. Vous voyez,
On peut
c'était.
s'orienter par hasard vers la médecine.
Alors,
C'est quand même hyper exigeant comme
je
étude.
parle plus de hasard maintenant. Je parle ou de synchronicité, ou plutôt de fortune. Et je considère que notre chemin est un chemin de fortune et de bonne fortune, ou de mauvaise fortune. Et à nous, lorsqu'on a la mauvaise fortune de se casser une cheville, par exemple, de trouver la bonne fortune à côté. La bonne fortune, c'était la possibilité d'aller vers ses études de médecine. Et vous avez parlé de bifurcation tout à
Oui, tout
l'heure.
à fait.
J'ai choisi cette bifurcation et j'en suis fort heureux maintenant. Voilà
À
ça.
chaque crise,
Oui.
une opportunité, c'est ça.
Exactement. Ça, c'est la base de la philosophie taoïste.
D'ailleurs, c'est ce qui a influencé votre pratique. À quel moment vous avez fait la bascule? Puisque pendant un moment, vous le dites dans votre livre, vous êtes très bon élève, en fait, vous suivez les dogmes.
Ah oui.
Et puis, il y a un moment donné, face à la réalité, vous faites encore une fois cette bifurcation. Comment ça s'est passé, cette.
Oui, là c'est un conseil que je donne aux éditeurs. Pendant longtemps j'ai été un bon élève et j'écoutais les paroles de mes maîtres et je les appliquais. C'est normal, mon père était gendarme, dans la gendarmerie on applique les règles, hein, donc j'étais formaté comme ça. Et c'est assez tard finalement, c'est vers la fin des années 90 que j'ai rencontré Alain Berthoz, professeur au Collège de France, qui m'a appris le scepticisme. Et il m'a dit, remets en cause tout ce que tu as appris. J'avais commencé à le faire, je dois le dire déjà, mais il m'a fortifié dans cette idée. Déjà au début des années 90, avec mon ami Charles Jousselin, on avait mis en doute la parole pure ericksonienne pour créer le concept de nouvelle hypnose. Voilà. Avec hésitation, avec l'impression de trahir nos maîtres et de ne pas être fidèle à ce qu'on nous avait enseigné. Et là, à partir du milieu ou de la fin des années 90, là, c'est avec affirmation qu'on est rentré dans cette philosophie sceptique et scepticisme joyeux. Tu me dis blanc, et pourquoi ça ne serait pas noir? Et on discute de ça. Et ce qui anime ce scepticisme, c'est la joie d'avoir affronté deux éléments comme deux silex, tac, le noir, le blanc, on les fait se heurter et l'étincelle joyeuse apparaît de la vérité du moment, c'est-à-dire du paradigme. Voilà. Donc ça, maintenant, oui, ça fait partie de ma vie.
Et pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui?
Ce livre, ça fait 15 ans que je voulais l'écrire. J'ai écrit en 1994 les bouquins sur la nouvelle hypnose, hypnose psychodynamique, et ça fait donc 25 ans exactement. Donc depuis au moins une vingtaine d'années, je pense à ce bouquin. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement d'évolutions dans les neurosciences, dans la conception du cerveau, disparition de la notion de cerveau reptilien, de cerveau droit, cerveau gauche, de conscient, inconscient, subconscient, de dissociation, enfin tout cela a disparu, que chaque fois j'avais envie d'écrire et de mettre ça dans un bouquin. Mais chaque fois que j'écrivais quelque chose, c'était remplacé par autre chose. Et donc j'avais l'impression que c'était une vis sans fin. Et puis un jour, j'ai décidé de me poser, c'était il y a 5 ans ou 6 ans, et de commencer à écrire, parce que les techniques d'activation de conscience commençaient à se théoriser. On était un petit groupe, un groupe de 5 ou 6 autour de nous, et voilà, on avait stabilisé ça. Mais même ces 5 ou 6 années, ça continuait à évoluer. Et donc là, c'était il y a 2 ans. Là, j'ai décidé d'écrire la première ligne et d'avancer. Voilà. En actualisant jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Odile Jacob accepte le bouquin, j'ai toujours actualisé mon manuscrit. Voilà. Et je continue maintenant dans cette vague parce que tout continue à évoluer. Donc, j'écris maintenant un bouquin qui paraîtra je ne sais pas quand, peut-être dans un an ou dans 2 ans, avec ces données nouvelles. Parce qu'on a la chance d'être dans un monde en changement total. Hein, vous êtes arrivé avec un masque, nos élèves sont masqués, etc. Il y a des gros changements dans notre vie qui apparaissent, qui sont l'actualité de notre vie. Et dans tous les domaines, tout change. Et donc, on a beaucoup de choses à dire. Et tout cela, tous ces changements, ils sont applicables dans le domaine de l'aide aux patients, c'est-à-dire de la psychothérapie.
Alors, vous terminez votre livre en expliquant comment la philosophie, et puis d'ailleurs, vous l'avez énoncé plusieurs fois lors de notre entretien, vous expliquez comment la philosophie taoïste ou la pensée chinoise a influencé ou influence votre pratique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, quelque part, cette pensée chinoise, cette philosophie taoïste, qui est vieille de 3 à 5 000 ans selon les experts, est-ce que, quelque part, la science ne court pas après, effectivement, des savoirs ancestraux? En fait, ce que vous pratiquez, aujourd'hui, ce que vous mettez en place, c'est des choses, c'est des savoirs ancestraux qu'on avait oubliés et que la science aujourd'hui est en train de valider. Donc, voilà, est-ce que quelque part,
Oui,
voilà,
tout à
la
fait.
science ne court pas après des sagesses, des choses, des savoirs qu'on a déjà, en fait?
Tout à fait. C'est vrai que notre médecine, je vois les études que j'ai faites, sont très scientifiques. On ne nous parle pas de philosophie, on ne nous parle pas de médecine traditionnelle. Enfin, on n'en parlait pas. Mais on commence maintenant. Toby Nathan a fait un grand effort pour nous montrer que les autres cultures avaient quelque chose à dire. Et les autres cultures médicales ont quelque chose à dire aussi. Elles sont éprouvées au fil des siècles et des millénaires. On a parlé de la proprioception, qui est arrivée en 2014 chez nous. Et en fait, elle était dans le taoïsme, c'était la base justement de la médecine taoïste. Le mouvement, le qigong, le tai chi, tout ce que vous connaissez, on soigne par le mouvement. On soigne par d'autres choses, bien sûr, mais le mouvement était primordial. Les émotions, ils avaient simplifié depuis longtemps les émotions, alors que nous, on était monté à 12 émotions il y a encore quelques années. Donc oui, ils avaient de l'avance. Les philosophes ont de l'avance aussi. Spinoza, par exemple, a très très bien compris le fonctionnement de l'esprit avec ce conatus, cette force de vie qu'on a en nous. Tout simplement, il décrivait l'agentivité, qui est la modernité dans l'étude de la psychologie ou de l'étude du fonctionnement du cerveau. Les poètes aussi. Les poètes sont très en avance. J'ai parlé de Baudelaire tout à l'heure. Actuellement, au niveau de la sensorialité et de la proprioception, on voit que les sens se mélangent. Eh bien, dans son poème Correspondance, les couleurs, les parfums, les musiques se répondent, sont en correspondance. Il avait découvert ça, disons, un siècle avant nous, les scientifiques. Donc, écoutons les poètes, regardons les œuvres d'art des peintres, relisons les philosophes. Étudions les tradis médecine tout en restant scientifiques. C'est-à-dire, là aussi, avec notre scepticisme, employons-le pour ce que je viens de citer et comparons-le. Le silex, ça sera la tradition et la modernité scientifique. Alors, un petit coup de silex, boum, et l'étincelle va arriver et va nous permettre de progresser.
Eh bien, merci beaucoup, Jean Vecchio,
Merci.
pour votre livre qui est mais absolument, absolument, absolument magnifique. J'ai envie de dire que c'est un livre qui fait du bien. J'ai pris énormément de plaisir à vous lire. Pour vous dire, et je le partage, je vous l'ai dit tout à l'heure en off, mais quand j'ai fermé le livre, la dernière page du livre, j'ai pris le livre dans mes bras. Voilà, c'est la gratitude de vous avoir eu, d'avoir eu accès à autant de sagesse, autant de connaissances, autant d'amour, de bienveillance. Et on a l'impression d'être, voilà, ça fait du bien aux cellules, et puis on a l'impression d'être plus intelligent aussi. Donc,
Merci, merci. Vous parlez de la définition de l'agentivité qui, lorsqu'on la stimule, nous rend plus intelligents, plus forts et plus beaux, comme on dit dans le Qigong. Merci beaucoup en tout cas pour votre
bien,
intervention.
merci Jean Vecchio. Je rappelle le titre de votre livre, Du nouveau dans l'hypnose, Les techniques d'activation de conscience, paru récemment chez Odile Jacob. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ces infos vous ont été utiles. Je vous rappelle le titre du livre de Jean Becchio, Du nouveau dans l'hypnose, les techniques d'activation de conscience, paru aux éditions Odile Jacob. Je vous donne rendez-vous sur bloomingyou.fr où vous trouverez la retranscription de cet entretien avec toutes les références. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!